La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Notre imaginaire commun nous fait croire que nous vivons dans des démocraties, alors qu'un regard plus distant sur la réalité de nos régimes de pouvoir suggère que nous vivons dans des médiarchies. C'est par cet énoncé aussi fort que lapidaire que s'ouvre le nouvel essai d'Yves Citon, sobrement titré « Médiarchie ». Et c'est par cette phrase de prime abord provocante et discutable que j'ai eu envie d'ouvrir cette 19e saison de La Suite dans les idées et d'inaugurer avec vous ce nouvel horaire, 12h45, juste après le journal de la rédaction de France Culture. Nouvel horaire et nouveau format, l'émission s'allonge de 15 minutes. Et après mon entretien, aujourd'hui avec Yves Citon, donc nous accueillerons chaque samedi un ou une seconde invitée venue du monde de la culture ou du journalisme pour élargir la conversation, placer les sciences humaines et sociales en résonance avec d'autres modes de connaissance. Aujourd'hui, vers 13h15, c'est donc la romancière Sandra Lucbert qui nous rejoindra pour cette suite dans les idées. Bonjour Yves Citon.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes professeur de littérature et médias dorénavant à l'université Paris 8, co-directeur de la revue Multitude et l'auteur depuis une dizaine d'années d'essais importants qui vous ont éloigné de la littérature du 18e siècle. Donc vous êtes au départ spécialiste, mais nous ont permis de mieux comprendre les transformations les plus récentes de notre espace public. Je pense en particulier à vos travaux sur l'écologie de l'attention, à tous ces travaux qui nous ont fait aussi découvrir en français des traditions de recherche qui viennent plutôt d'Allemagne ou des pays scandinaves, participant en cela de ce qu'on peut appeler dorénavant une archéologie des médias. Alors vous publiez ces jours-ci aux éditions du Seuil un nouvel essai important, Médiarchie. À première vue, comme ça, on pourrait, juste en s'arrêtant sur le titre, se dire, voilà, encore un livre qui, dans une veine un peu dégagiste, même à l'égard des médias, vient de façon quasi populiste, s'en prendre à ce que les journalistes en réaction, en défense, ont tendance à désormais appeler les médias, en un seul mot, vous savez, les médias. Et en fait, on est très très loin de ça, on est même aux antipodes de ça. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans une posture critique à l'égard des médias, mais certainement pas dans ces formes de critique bas du front qui font floresse depuis un certain nombre d'années, Yves Citon.
Oui, merci de souligner cet aspect. En fait, le livre commence avec une reconnaissance du besoin de faire une critique des médias, que fait Acrimed, que font Fair aux États-Unis, que font plein de gens, qui me semblent intéressants et que je vise pas du tout ni à discréditer, ni à me poser comme supérieur à eux, mais j'essaie simplement de faire autre chose. À savoir, comme vous le dites, oui, il y a plein de choses à critiquer, mais essayer de comprendre, et comprendre, c'est prendre à l'intérieur d'ensemble peut-être plus large, c'est plutôt ce que j'essaye de faire. Avec un horizon de critique, mais que je laisse souvent, peut-être pas assez souvent, mais que j'essaye de laisser souvent à l'extérieur du livre, à savoir donner des outils pour essayer de démonter ce qui monte en permanence notre vision, notre perception de la réalité, et donc ce qu'on en dit et ce qu'on fait à l'intérieur de cette réalité. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire, et le premier décalage, il consiste à décliner ce mot de média, de cette partie de les médias, qu'on peut écrire en un mot. En France, quand on parle justement de médiarchie, enfin on parle pas beaucoup de médiarchie, mais quand on emploie cette référence aux médias, aux médiatiques, on a cette idée que c'est France Inter, TF1, Le Monde, etc., un certain nombre de grosses institutions. Et pour moi, j'essaye d'en faire un des quatre moments de ce qui constitue une vision plus large du monde de la médialité, parce que je reprends des termes allemands ou autres qui parlent de médialité. Et donc oui, il y a les médias, les masses médias, mais il y a une catégorie beaucoup plus générale. Alors à la radio, ça va passer difficilement, parce qu'on peut pas mettre des accents ou des S, mais que j'écris sans accent ou sans S, qui seront justement les médias en tant que ça passe par du papier, des journaux, mais aussi bien le téléphone, mais aussi bien les pigeons voyageurs. On ne va pas dire que les pigeons voyageurs sont des médias, et pourtant ça permet de transmettre, de faire circuler de l'information. Et puis, il y a une troisième notion, un jeu sur ce mot de médium, que j'écris avec un accent et un médium, le médiumnisme, si on veut, dont on parle rarement quand on parle des médias, et qui ici me semble important à rapatrier, en particulier à travers une approche des médias qui s'appelle l'archéologie des médias, que j'invente pas du tout, mais que je reprends, que certains pratiquent en France, comme vous-même, Sylvain Bourmeau, et qu'on essaye de mettre en valeur. Et la notion de médium, du côté médiumnique, j'essaye de la rattacher à ça.
Alors, on va revenir sur ces trois dimensions, sur une quatrième aussi, qui a trait au numérique, aux transformations les plus récentes liées à des changements technologiques considérables, et aussi de modèles économiques qui sont très, très importants. Mais je voudrais, quitte à rester du côté des choses périlleuses à tenter à la radio, il n'y a pas seulement les signes typographiques, tout ce qu'on ne voit pas, il y a aussi les images. J'aimerais aussi partir d'une image qui figure dès l'introduction de votre livre, qui est très frappante. Et j'aimerais que vous nous la décriviez, Yves Citon, cette image dont la légende est la kaléidoscomanie autour de 1820.
Alors effectivement, là je reprends ça d'un archéologue des médias d'origine scandinave qui enseigne maintenant à Los Angeles, s'appelle Erki Utamo, qui a déniché cette image qui date donc de, on ne sait pas exactement, disons 1820, sur laquelle on voit une douzaine de personnages, alors qui s'embrassent, qui discutent, qui se font la cour, etc. Sauf que presque chacun d'eux tient à son œil un kaléidoscope. Donc ces petits tubes qui permettent de faire tourner des images avec des couleurs. Et alors que leurs bouches s'embrassent, leurs yeux sont captés par la nouveauté de ce nouveau gadget, ce nouveau médium, ces nouveaux médias qu'étaient les kaléidoscopes à l'époque. Et donc à partir de cette image, on peut reconstituer, c'est ce que fait très bien Erki Utamo, toute une tradition donc qui remonte au moins à deux siècles d'attention. Là, vous faisiez référence à mon travail précédent, c'est vraiment des attentions qui sont captées, capturées par des nouveaux gadgets technologique. Sauf que aujourd'hui, lorsqu'on emploie ce segment de nouveaux gadgets technologiques, etc., c'est forcément du numérique, c'est forcément des smartphones, etc., de se dire qu'il y a 200 ans, ça se passait avec des kaléidoscopes, qu'il y a déjà eu des dénonciations, en gros, de la fin du monde, parce que tout le monde serait tellement distrait que personne ne pourrait plus s'embrasser, qu'il n'y aurait plus d'enfants, etc., qu'on a tous les yeux là.
Ces lamentations sont loin d'être nouvelles.
Voilà. Alors, ces lamentations sont loin d'être nouvelles, c'est pour ça qu'on a besoin de l'archéologie des médias pour prendre de la distance face aux lamentations contemporaines, et pour autant, sans les disqualifier. Moi, ce qui me semble très important, c'est de ne pas dire « Ah, j'ai tout compris, vous êtes naïve, vous plaignez de vos téléphones portables, et moi, je vous explique que les kaléidoscopes, on en parlait de la même façon il y a 200 ans. » Oui, on en parlait pas exactement de la même façon, mais quand même, on peut faire des échos, et ça nous aide à voir ce qu'il y a de différent aujourd'hui, parce que c'est clair qu'on peut faire avec un kaléidoscope un certain nombre de choses, et qu'on peut faire des choses très différentes avec un smartphone.
Alors cette image, vous pourrez la retrouver sur la page de l'émission, La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. Elle est assez extraordinaire, je vous laisse en juger par vous-même. L'un des partis pris de votre essai, Yves Citon, c'est par ailleurs d'accorder une part très importante à la théorie, et même de revendiquer, je vous cite, un brin de folie théorique, dites-vous. Parce que au fond, pour vraiment comprendre les médias, on a besoin d'en passer par des abstractions. On ne peut pas se permettre de façon naïve de regarder les médias en face. Ils sont trop éblouissants pour ça.
Tout à fait. Donc là, merci beaucoup. Il y a vraiment deux détours. Un détour, c'est le détour par les temps passés. L'archéologie, c'est de remonter dans des strates temporelles plus lointaines que ce qu'on a l'habitude de faire et de parler l'histoire différemment. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais c'est aussi de faire le détour par l'abstraction. Et c'est de se dire que tous ces, alors en particulier les métamédias numériques, donc je reprends ce terme de différents théoriciens, métamédias pour dire ce qui passe par du numérique, de la digitalisation, etc., etc., qui sont bien des médias parce que ça fait des télévisions, ça communique des phrases comme on le faisait avec le courrier, avec des chevaux ou du papier il y a 200 ans, donc c'est bien des médias, mais il y a quelque chose de plus qui est que tout est traduit, il y a un passage numérique, tout est traduit à un certain moment en code binaire. Et donc ce passage lui-même, la matérialité du passage est une forme d'abstraction. On abstrait, on extrait, on tire d'une réalité multisensorielle, multiphase, très complexe, etc., des abstractions qui finalement se résout en 0 et en 1. Et il me semble que pour comprendre les enjeux de ce mécanisme matériel qui passe par l'abstraction, il faut que nous, avec nos esprits, nous fassions un travail d'abstraction parallèle qui est de passer par des concepts. Alors on peut appeler ça théorie, et théorie c'est aussi dans l'étymologie une façon de voir, c'est pas seulement des concepts abstraits, c'est aussi justement de voir les choses, d'avoir des sortes de pays bagage de notions qui nous aident à nous situer dans ce qui est en train de nous arriver et ce qu'on est en train de se faire à soi-même et aux autres. Et donc, passer par l'abstraction, passer par la théorie, moi, ça m'a poussé à aller chercher du côté, comme vous le disiez en introduction aussi, des textes plutôt allemands, plutôt scandinaves ou plutôt américains, où là, il y a des choses qui s'appelaient « Medienstudien » ou « Media Theory », qui, depuis de nombreuses années, en gros depuis McLuhan, ont développé toute une batterie de concepts dont je m'étonne un petit peu qu'on ne se l'approprie pas davantage en France. Alors, certaines choses qui sont venues, McLuhan, maintenant, c'est quand même bien lu, etc. Mais il y a plein de gens, entre l'Allemagne des années 90 et les États-Unis des années 2000, qui ont vraiment proposé plein de choses qui, moi, m'emballent, me semblent vraiment très utiles et que, dont je m'étonne qu'on n'en parle pas plus ici.
Mais on trouve même des choses en Italie où ces médias studies existent très fortement. Il y a une exception française, on peut le dire, de ce point de vue.
Mm-hmm. Peut-être. Moi, je connais trop mal les autres situations, mais il y a quelque chose de particulier en France qui est très complexe parce qu'il y a des gens que moi, je respecte beaucoup qui sont les médiologues. Quelqu'un comme Daniel Bougnou, qui est un ami et que je respecte vraiment infiniment. Quelqu'un comme qui passe beaucoup à France Culture. Peut-être trop, ce serait mieux d'écouter un petit peu Bougnou, mais comme Régis Debray, qui ont fait un travail dans les années 80-90 et qui continuent à le faire d'ailleurs très bien, qui ont lancé cette réflexion, moi je fais que continuer en quelque sorte ce qu'ils ont fait, mais qu'ils l'ont fait à l'intérieur justement d'un espace français qui faisait plein de références à des choses françaises qui sont très riches mais qui demandent un petit peu d'ouvrir la fenêtre pour voir ce qui se fait en dehors. Donc moi je me situe un petit peu dans la continuation de ceci et dans l'internationalisation ou une plus grande peut-être diversité culturelle dans cette théorie, cette théorisation des médias.
Je voudrais, citons, à propos de médiarchie, qu'on aborde la dimension politique, qu'on trouve dès le titre, et vous mettez en balance, au fond, la médiarchie avec la démocratie. Vous nous dites, et vous le dites de façon sans prendre de détour, comme je le rappelais dès le départ, les systèmes ou les régimes de pouvoir dans lesquels nous vivons aujourd'hui ne peuvent pas véritablement être qualifiés de démocratie. Ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas une chose importante à laquelle nous devons tenir. Elle est possible sur des entités de taille réduite. On la trouve à l'échelle locale, on la trouve ici ou là, mais dans des régimes de la taille d'un pays comme la France ou ses équivalents, ce n'est pas possible parce que les relations sociales passent nécessairement par les médias. D'où ce terme de médiarchie qui vient caractériser, au fond, ce régime de pouvoir particulier dans lequel les médias ne sont pas une forme d'extériorité, mais véritablement au cœur du système.
Tout à fait. Vous avez cité cette phrase inaugurale qui est un petit peu un pavé dans la mare pour lancer la réflexion, qui est simpliste dans la mesure où elle oppose médiarchie à démocratie, alors que, comme vous le suggérez maintenant, il s'agit pas tellement de dire que est-ce qu'on est dans l'un, est-ce qu'on est dans l'autre. On est dans les deux à la fois, en quelque sorte, où la démocratie est au moins un idéal qui anime pas mal de mouvements, de pensées, de revendications, et qui se réalise à travers un certain nombre d'institutions aussi, mais qui me semble incompréhensible si on ne le resitue pas, et en tant qu'idéal et en tant qu'institution réelle, à l'intérieur d'une autre forme de pouvoir diffus latent, qui est celle des médias. De nouveau, pas des journaux que les journalistes nous contrôlent tous, etc., mais de structures de communication, d'enregistrement, de production d'images et de sons qui est, je dirais, antérieure à ce qu'on appelle habituellement démocratie. Comment ça se voit ? Ça se voit que lorsqu'on se demande qui décide des évolutions explicites au moins de nos sociétés, on se dit, bah tiens, c'est des électeurs, parce qu'ils décident d'envoyer Monsieur X, Madame Y au Parlement, à l'Élysée, etc. Ou alors, on pourrait se dire, si on est du côté libéral, bah ce sont des consommateurs qui décident d'acheter plutôt ceci que cela, en fonction de prix, en fonction de désir, etc. Or, à l'intérieur, c'est justement, je parle d'intrastructure, pas seulement d'infrastructure, et puis il y aurait des superstructures là-dessus, comme en termes classiquement marxistes, mais j'essaye de parler d'intrastructure parce que au cœur de ceux qui votent, vous et moi, au cœur de ceux qui achètent ou vendent, ou transmet ou échange, vous et moi, il y a des représentations qui sont mises en circulation à travers justement des médias au sens très large. C'est des représentations à qui je parle au téléphone ou qu'est-ce que je vois à la télévision, qu'est-ce que je lis dans le journal ou sur Facebook, etc. Et donc, cette intermédiation que sont les médias, si on ne les prend pas en compte, eh ben on s'aveugle à ce qui est vraiment décisif, me semble-t-il, dans ceux qui votent et dans ceux qui votent pour Y, contre X, ceux qui achètent, ceux qui n'achètent pas, etc., etc. Donc c'est ce moment de l'intermédiation que j'essaye d'analyser avec les outils que je peux récupérer à droite et à gauche, parce qu'il me semble qu'il est préliminaire à une pensée de la démocratie, non pas du tout pour dire, justement, c'est pas, il n'y a pas de démocratie, ou alors c'est un faux idéal, parce qu'on est tous des moutons, etc. C'est absolument pas ça, c'est de dire, on ne peut mieux comprendre la démocratie, parce qu'il me semble qu'on n'a pas à être fier de la façon dont ça fonctionne maintenant, on ne peut pas mieux la comprendre sans vraiment essayer d'investir du temps, des dialogues, c'est pas un début, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent déjà là-dessus, mais c'est un moment d'un processus qui met l'accent sur cette intermédiation.
Ça veut dire qu'il faut sortir non seulement des représentations marxistes dont vous parliez, mais de représentations qui ont en commun avec ces représentations marxistes le fait de considérer ce qui relève, par exemple, de la communication, entre guillemets, comme une couche superficielle, quelque chose de secondaire. Or, c'est toujours ce prisme qui est à l'œuvre quand il s'agit de comprendre les événements récents en matière politique. On fait toujours, ou on tente de faire, c'est l'une des missions du journalisme politique en particulier, la part des choses entre ce qui relèverait du fond d'un côté et ce qui relèverait de la communication de l'autre, ce qui est un non-sens total, dont vous suit bien, Yves Citon.
Tout à fait. Là, j'essaye de faire un détour. C'est un de ces détours théoriques abstraits un petit peu audacieux par une physicienne écoféministe de l'Université de Santa Cruz qui s'appelle Karen Barad, qui nous invite à parler non pas d'interaction, parce qu'on peut dire que la communication, etc., c'est de l'interaction. Vous me posez des questions, je réponds à vos questions. Et c'est pas fou de dire ça. C'est absolument juste et nécessaire et très utile. Elle nous invite à penser tout ça en termes d'intra-action. À savoir, c'est à l'intérieur de modes d'interaction, de structures de loi, de la physique, de loi de la société, etc. Ce sont des intra-actions qui se parlent lorsqu'on a l'air de se parler. Et elle parle aussi de coupe agentielle, hein, et c'est ce que j'essaye de mettre un petit peu au cœur du moment un petit peu théorique de qu'est-ce que c'est que des médias de façon très très générale, c'est de dire c'est ce qui opère des coupes agentielles. Qu'est-ce que c'est que des coupes agentielles? Eh ben, ça tranche dans une réalité qui est infiniment complexe, on va dire, ça tranche, ça coupe, et cette coupe, elle agit. C'est à partir de cette coupe que nous agissons. C'est, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en France, hein? Alors, on va parler de terrorisme, on va parler du gouvernement qui a fait ceci ou cela, on va parler d'une opposition, hein, on va parler de ceci. Parmi l'infinité de choses qui se passent dans une journée, les journalistes, et c'est pas du tout une accusation, c'est leur boulot, et on a besoin d'eux pour faire ce travail de réduction de l'infinie complexité de la réalité à quelques coupes, c'est en fonction des coupes qu'ils font, moitié par choix, moitié par structure qui les détermine, que je vais me repérer dans le monde. Bah tiens, il y a un président qui fait ça. Mais on aurait pu me dire, bah tiens, il y a une communauté qui est en train d'essayer de cultiver un champ d'une façon un petit peu différente. Et peut-être que c'est beaucoup plus important de comprendre ce qui se passe dans cette communauté-là que de ce qui se fait à l'Élysée. Surtout dans le niveau de granularité sur des petites phrases, des trucs comme ça. Et donc ce moment de choisir où est-ce qu'on fait la coupe, c'est une coupe agentielle parce que ça conditionne ce qui nous fait agir, ce qui fait de nous des agents qui vont plutôt agir sur ceci que sur cela.
Alors, le livre lui-même est un média. Vous en êtes évidemment très, très conscient et vous avez conçu celui-ci en forme, en référence au kaléidoscope dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire comme tous les livres, en commençant par la première page et en terminant par la table des matières. Mais c'est aussi un livre dans lequel on peut puiser certaines choses, parce que vous prenez comme un fait le rapport qui est désormais le nôtre au livre, et il y a différents modes de lecture. Donc vous l'avez conçu aussi avec des interludes, mais vous l'avez conçu quand même en vous arrêtant sur les quatre manières, et j'aimerais qu'on y revienne, de définir les médias. Aussi difficile que ce soit à la radio à cause de ces signes typographiques, mais médias, donc je rappelle, médias sans accent, médias avec un accent, médium, et puis métamédia. Alors, de façon très très claire et concise, j'aimerais que vous reveniez sur chacun de ces continents, vous les qualifiez comme ça, et ce livre est au fond un voyage à travers ces quatre continents qui nous permettent de comprendre comment fonctionne cette médiarchie, Yves Citon.
D'accord. Donc je reprends juste ce que vous avez commencé à dire sur le livre comme médium. C'est un livre qui est quand même un petit peu épais, qui fait 400 pages. Grâce à Bruno Auerbach, il fait que 400 pages, parce qu'en fait il en faisait beaucoup plus à la base, et c'est mon admirable éditeur du Seuil qui l'a réduit à quelque chose de près presque portable et de presque lisible. Il a une vocation systématique, ce livre, à savoir que j'essaye vraiment de classer les problèmes, de rassembler autant de problèmes qui me semblent pertinents sur une sorte de cartographie générale. Donc, moi, je serais très heureux si les gens prenaient le temps de l'explorer, de le suivre, comme voilà, comme un parcours touristique à travers des continents et qu'on le suive, parce qu'il y a un ordre. En même temps, je sais que 400 pages, moi, je sais, dans ma pratique à moi, c'est pas facile de trouver le temps de lire ça. Et donc, je mets toute une série de repères avec des mots en majuscules, etc., pour que on puisse se dire, bah, tiens, moi, je suis journaliste, c'est plutôt ça qui m'intéresse, ou alors moi, c'est les téléphones portables, etc., pour qu'on puisse se repérer et au moins en dégager un petit peu quelque chose. Donc ça, c'est sur l'objet lui-même. Maintenant, ces quatre continents, donc le premier, on en a déjà parlé un petit peu, c'est les médias dans le sens le plus général du terme, tout ce qui permet de enregistrer, transmettre et traiter de l'information, des images, du son, des sensations, etc., etc. Donc là, c'est la catégorie la plus large. La catégorie des médias, les médias avec accent S, ben c'est ce dont on parle habituellement en France, quand on dit les médias font ceci, font cela, etc. De nouveau, la plus surprenante peut-être, c'est la troisième, qui est la notion de médium, et c'est de dire qu'à côté de la médialité, ça c'est les médias au sens général, à côté du médiatique, justement, ce qui passe par les masses médias, il y a du médiumnisme dans tout ce qui touche aux médias. Et qu'est-ce que c'est que ce médiumnisme? C'est simplement le fait, très, très banal, que un enregistreur, un gramophone, il y a plus d'un siècle, ça permet d'entendre la voix des morts. Et on n'avait pas la possibilité ou l'habitude d'entendre la voix des morts jusqu'au milieu du 19e siècle.
Alors ça, il faut revenir à la jeunesse de Thomas Edison. Il y a un film fameux et magnifique qui montre Thomas Edison enfant, marqué par cette guerre civile américaine, ces milliers de morts. Et l'idée de faire entendre, de ressusciter les morts, au fond, va devenir un rêve pour ce gamin surdoué, avec des troubles de l'attention, dirait-on aujourd'hui, probablement, qui va devenir l'inventeur génial qu'on sait. Et avec, comme motivation d'enregistrer la voix des morts et de faire revenir d'entre les morts ceux dont la voix a été gravée sur ces cylindres, Yves Citon.
Tout à fait. Et on peut faire après l'histoire de ceci, hein, ou l'archéologie de ce qui a motivé quelqu'un comme Thomas Edison à la fois à inventer des dispositifs médiatiques et à chercher, à imaginer, voire à souhaiter des dispositifs qui permettent aussi de communiquer avec les morts. Là, j'ai une mémoire catastrophique, mais vous avez un excellent collègue à France Culture qui est réalisateur à France Culture.
Philippe Baudouin.
Merci beaucoup, vous me sauvez. Philippe Baudouin, que j'admire infiniment, qui vient de sortir, qui a sorti peut-être une année, un très beau livre qui à la fois donne les textes d'Edison et une préface qui resitue tout ceci très bien. Donc, le médiumnique, c'est la double face d'Edison. Là, vous avez très très bien illustré ça. Bah oui, c'est quelqu'un qui invente des trucs et on continue plus ou moins à les utiliser sous leurs avatars futurs. Et puis, c'est quelqu'un qui trouve pas idiot qu'on puisse peut-être communiquer avec les morts. Parce que c'est déjà un petit peu ça qu'il fait. Alors, de nouveau, il faut pas être naïf. Qu'est-ce que c'est qu'un récit littéraire, ou qu'est-ce que c'est qu'un poème, ou qu'est-ce que c'est que du texte? Du texte, c'est déjà Platon qui me parle. Platon, il est mort et il continue à parler. Donc, c'est pas absolument nouveau, c'est pas le gramophone qui a fait quelque chose qui n'existait pas. Les morts nous parlaient dès qu'on a pu écrire quelque chose. Mais quand même, d'entendre la voix, moi j'aimerais bien entendre la voix de Diderot, ou j'aimerais bien voir Diderot en train de parler à ses copains s'il y avait eu une vidéo ou une télévision. Il n'y a pas. Donc là, maintenant, il y a. Et ça change. Et donc, c'est toute cette espèce d'entour qui fait que les médias sont toujours pleins de revenants. Et aussi, l'autre aspect du médiumnique et de l'archéologie des médias, c'est de se dire que, plutôt que parler en termes de succession, une histoire, c'est la succession, c'est donc le télégraphe qui remplace les lettres, c'est le téléphone qui remplace le télégraphe parce que ça va plus vite, et puis c'est Internet qui remplace tout ça parce qu'on peut tout faire. Succession. Non, l'archéologie des médias consiste à dire tout ça, c'est une affaire de couches, et le passé est présent. Il suffit de creuser un petit peu et le passé, il est présent sous... Donc, typiquement, le kaléidoscope ou les angoisses du kaléidoscope sont présentes sous nos angoisses dues sur le téléphone portable, etc. Ça, c'est pour le médiumnique et le médium. Et la dernière partie du livre, c'est donc là, sur les métamédias.
Là, on est dans le présent le plus contemporain.
Voilà.
On est dans ce qu'on peut appeler la mutation numérique, par exemple.
Voilà. Et parce que à la fois, c'est... Alors, métamédias, la définition que je reprends de métamédias d'Alan Kay, c'est de dire que c'est des médias qui permettent de simuler tout autre médium préexistant ou médium futur. Donc c'est une simulation. Et c'est vrai que je regarde la télévision à travers une télévision numérique ou à travers une télévision normale, si ça existe encore, ou que je regarde, disons, un film à travers du vieux VHS ou à travers un CD-ROM, on peut se dire, ça ne change pas grand-chose. Et de fait, le cinéma numérique, hein, il y a plein de spécialistes du cinéma qui nous disent « Qu'est-ce que c'est cette histoire de cinéma numérique ?» En fait, l'expérience du spectateur n'a pas du tout été changée. Contrairement, mettre du parlant, ça change beaucoup l'expérience du spectateur, que tout transformer en numérique, qu'est-ce que ça change ? On en parle beaucoup, ça ne change rien. Donc, c'est un métamédium en tant que ça simule d'autres médias. Et en même temps, ce passage par le numérique, ça peut tout changer. Et c'est en train de tout changer, je dirais, non pas tellement, ou beaucoup moins dans ce qui se passe entre nos yeux et nos oreilles et les écrans, parce que là, de nouveau, ça change. Mais dans ce qui se passe derrière les écrans. Et c'est toute la capacité, justement, à collecter des données, la capacité à prendre note de notre attention, à être attentif et à suivre en temps réel notre attention. Là, ça change tout. Et on commence à peine à comprendre ce que ça peut changer que d'être dans un monde de métamédias.
Ça change aussi, en particulier, l'économie. Parce que ça change derrière les écrans, les modèles économiques qui font tourner ces médias, la manière de commercialiser notre attention. Ça, ce sont des choses qui vous ont intéressé quand vous avez travaillé sur le glissement que vous proposiez de l'expression économie de l'attention à l'écologie de l'attention.
Tout à fait. Et donc là, dans une partie de vie, j'essaye justement de reprendre ceci. Et pour penser les médias, vous parliez tout à l'heure de sortie du marxisme. Je vous ai un petit peu tendu la perche en parlant d'infrastructure plutôt que d'infra et de superstructure. Pour moi, ce n'est pas une sortie du marxisme. Enfin, je ne suis pas particulièrement nostalgique du marxisme, mais c'est une continuation. Voilà,
c'est une couche
supérieure
couche.
Avec des gens comme Dallas Smith et autres qui avaient, dès les années 70, depuis l'intérieur du marxisme, pensé un certain nombre de choses qu'on continue à penser aujourd'hui et que des gens qui se réclament d'ailleurs du marxisme nous aident à penser aussi. Et là, je dirais que c'est de passer d'une imagination du numérique en tant que données, data, à une imagination du numérique qui ne réfute pas du tout ce qu'il y a de beau dans la notion de données, mais qui surajoute justement la couche des captas, des prises. Et j'essaye de dire à un moment donné dans la fin du livre que si chaque fois qu'on entend le mot données, on traduit ça ou on rajoute une phrase qui traduit ça en parlant en termes de prises, en prise, etc. Là, justement, la dimension économique apparaît de façon beaucoup plus claire. Et cette petite gymnastique ou ce petit exercice mental ou linguistique de dire data, passer à capta, de données, passer à prise, et à refaire la phrase, il me semble que ça peut être une sorte de mode de survie dans ce monde de métamédia dans lequel on est plongé.
L'une des autres conditions absolument nécessaires pour comprendre ce qui se passe, sur laquelle on ne s'est pas arrêté pour l'instant, Yves Citon, c'est de sortir des frontières disciplinaires. Je le rappelais tout à l'heure, vous êtes au départ un spécialiste de la littérature du 18e siècle et vous vous intéressez à cette mutation numérique. Mais vous n'êtes pas le seul. Vous avez été l'éditeur de Catherine Hales, par exemple, qui est elle aussi une littéraire, d'ailleurs ex-chimiste, qui s'intéresse aux mutations numériques et nous a fait comprendre des choses fondamentales sur la lecture en particulier. Aujourd'hui, vous croyez que la recomposition de ces modes d'approche autour de, voilà, qui font collaborer des gens qui viennent d'univers différents est en train de se produire et parce que c'est un défi considérable de comprendre toutes ces transformations rapides.
Tout à fait. Et là, moi, je souscris tout à fait à la notion d'indiscipline qu'a développé, par exemple, Myriam Suchet dans un très beau livre récent, qui ne consiste pas du tout à supprimer ou mépriser les disciplines où les gens définissent un périmètre et creusent ce périmètre avec un certain nombre de méthodes, mais qui consiste à dire en plus des disciplines, il faut adopter une portée, enfin une attitude et des pratiques qui questionnent toute frontière disciplinaire. Et alors, pour moi, la littérature, c'est précisément ça. C'est quelque chose qui n'est pas une discipline, mais une indiscipline. Et c'est peut-être pas un hasard, justement, si plein de littéraires se trouvent parler de ces questions-là maintenant.
Alors justement, la littérature, on va en parler en compagnie de la deuxième invitée de la suite dans les idées aujourd'hui, la romancière Sandra Lucbert, dans un instant, juste après Pain, extrait de A Deeper Understanding, le nouvel album sorti cette semaine du groupe américain The War on Drugs. Un choix en forme de clin d'œil à la formidable grande traversée que Judith Pérignon a consacrée cet été sur France Culture à Bruce Springsteen. To me.
Suite dans les idées, Sylvain Bromeau.
La suite dans les idées, seconde partie, et désormais chaque samedi j'élargirai la conversation avec le premier invité, toujours issu des sciences humaines et sociales, aujourd'hui Yves Citon. Je l'élargirai avec un ou une deuxième invitée venue plutôt du monde de la culture ou parfois du journalisme. Aujourd'hui, c'est du monde de la littérature. Bonjour Sandra Lucbert.
Bonjour Sylvain Bourbon.
Vous êtes romancière, vous avez publié votre second roman, La Toile, au mois de février dernier aux éditions Gallimard. Et j'ai pensé vous inviter pour vous faire rencontrer Yves Citon, dont je crois, par ailleurs, j'ai appris, après vous avoir contacté, vous connaissiez les travaux, oui. Mais parce que votre roman, quand je l'ai lu, m'a frappé par son objet, mais aussi par sa forme. De la même façon que Yves Citon, vous êtes soucieuse du médium livre, et je crois, en vous lisant, c'est l'impression que j'ai eue, que vous avez eu envie, par les choix littéraires qui sont les vôtres, de souligner cette réalité souvent inaperçue s'agissant des médias, et que McLuhan a probablement été le premier à formuler, à savoir que les médias ne sont pas quelque chose d'extérieur à nous, mais les médias nous traversent au fond, sont littéralement en nous, et plus que jamais avec toutes ces prothèses qui nous font étendre nos corps plus loin. Et ce livre, avant toute chose peut-être, témoigne d'abord de cela, Sandra Lucbert.
Oui, en effet, le choix formel qui est le mien est effectivement à l'origine de l'écriture de ce roman. En fait, ce que j'ai voulu travailler, c'est le mode d'implication. Donc là, je reprends le travail qu'Yves Citon a fait dans Médiarchie sur l'étymologie d'implication, dans lequel il rappelle qu'il s'agit d'être plié dans. Et ce qui m'importait de voir, c'est comment individuellement et dans les relations entre les personnes, on était disposé d'une certaine manière, affecté d'une certaine manière, mu et ému de certaines manières. Et pour ce faire, j'ai voulu défaire l'espace romanesque traditionnel en ayant recours à un détour, exactement de la même manière que ce que vous disiez tout à l'heure, un détour littéraire celui-là, qui était de revenir à la forme du roman épistolaire, qui est un roman du 18e essentiellement, hein, donc on en revient à ce siècle, et qui a pour particularité, me semble-t-il, de faire disparaître la centralité du narrateur pour faire jouer des points de vue entre eux, des discours entre eux, et donc qui permet de bien comprendre la nature de l'échange. Et ce qui m'intéressait ici, c'est que en transposant, mais vraiment systématiquement, le dispositif épistolaire, j'ai pu faire travailler trois types de plateformes. Donc, une plateforme chiffrée sur laquelle s'expriment des gens qui peuvent s'adresser à une personne spécifique. Il y a peu de personnages dans le roman qui peuvent l'utiliser, parce qu'elle demande une certaine maîtrise du médium. Ensuite, la plateforme la plus banale, qui est le degré zéro, le mail, dans lequel, en réalité, on croit s'adresser à une ou plusieurs personnes, mais on déverse des données, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Et la dernière plateforme, qui est la plus publique et qui défait le plus facilement les rapports entre les gens, qui est la plateforme du web social, que j'ai appelé Medium dans le livre, et qui a également une option Messenger dans laquelle s'expriment les personnages.
Bon, qui fait beaucoup penser à Facebook, et c'est en cela que c'est original en particulier, parce que ça dépasse finalement le cadre de l'épistolaire au sens classique du terme. À la fois, on est dans l'épistolaire, pour faire un peu d'archéologie des médias, on est dans l'épistolaire, mais on est dans une dimension nouvelle, finalement, parce qu'on est dans un environnement qui dépasse le simple cadre des échanges un à un. On est dans un univers, je ne sais pas très bien comment le dire, un univers social qui est cette plateforme, Yves Citon.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Laurent Lotti qui a fait une postface à un roman de Véronique Taquin qui s'appelait Un roman du réseau, dans lequel il propose justement de parler de roman. Il y a roman épistolaire et roman réticulaire. Et là, il me semble que c'est, voilà, Véronique Taquin avait fait ça, quelque chose de très intéressant. Là, une autre forme à l'intérieur de ce genre qui émerge, le roman réticulaire. Je ne sais pas si vous vous y reconnaissez.
Si, vous m'avez montré rapidement le texte dont il était question. Et effectivement, la manière dont les agencements textuels font sens d'une manière différente, moi, c'est tout à fait ce qui m'a frappé lorsque j'ai découvert les médias dont il est question depuis tout à l'heure. Et je voulais que cette vitesse et ces logiques d'entrechoquement puissent surgir dans l'espace du livre.
Yves Citon, vous venez de la littérature. Que peut la littérature pour nous aider à comprendre ce qui se passe? Je veux dire par là, les objets littéraires, non pas les essais tels que vous les écrivez, mais un roman comme celui-là, contribue aussi à nous faire comprendre véritablement ce que sont les médias.
Tout à fait. Tout à l'heure, je parlais d'abstraction pour mon travail, et une des abstractions les plus violentes que je fais dans mon livre, c'est que je parle pas d'hormones, de sexe et d'amour. Alors que on le voit et chez Véronique Taquin et dans le roman La Toile de Sandra Lucbert, l'amour est là. C'est ça qui motive. Alors il y a toute une structure de rapport entre les personnes. Vous en parlerez mieux que moi, mais il me semble que ça nous redit que toutes ces choses abstraites d'électricité qui circulent dans des circuits, etc. Eh ben, il y a on appelle ça de l'amour, du sexe, des hormones, je ne sais pas ce que vous préférez ou à quel niveau vous voulez situer tout ceci, mais il me semble que c'est ça qu'on voit, entre autres.
Oui, si j'ai utilisé la forme du roman épistolaire, c'est parce qu'il me semble que dans sa forme la plus achevée, donc notamment la nouvelle Héloïse, les liaisons dangereuses ou les lettres persanes, il s'agit toujours de questionner le rapport de l'individu au collectif en agençant trois éléments qui sont le désir, la morale collective, le bon usage et les questions de réputation. Du coup, j'ai voulu faire travailler ces choses-là moi aussi, puisqu'il me semblait que la particularité des médias, comme vous le dites sur la quatrième sorte de médias que vous dégagez dans votre livre, c'est finalement de se brancher si près de notre corps qu'on est pris dans une pulsionalité avant d'avoir pu mettre en exercice notre entendement ou délibérer du consentement ou non qu'on veut donner à ce que ces médias nous font faire. Et donc du coup, je me suis dit que la forme la plus appropriée, c'était justement celle qui faisait travailler les échanges amoureux entre les personnages. Donc à la fois le roman épistolaire, mais il y a également un personnage élégiaque dans le livre qui est le personnage de Ian Cole, donc celui qui écrit des mails amoureux, etc., et qui me permet de réactiver une deuxième tradition qui généralement est liée d'ailleurs à celle du roman épistolaire, mais qui est celle du dire amoureux, donc de la lyrique amoureuse que je fais remonter dans le livre explicitement aux élégiaques latins, et qui en réalité, contrairement à ce qu'on croit à cause de ce que le romantisme a imposé comme vision du lyrisme, est un positionnement dans l'espace politique de l'individu qui se pose comme centre d'une énonciation, dans un rapport avec des figures culturelles, et surtout dans une adresse spécifique à une communauté spécifique. Et c'était ça que je voulais essayer de faire travailler, justement en utilisant cette matière de construction de désir, d'énonciation de soi-même comme être désirant, par opposition au régime de jouissance, si on veut prendre un terme lacanien, que nous imposent ces médias dans lesquels nous sommes pris.
Et là, ce que je trouve admirable dans votre roman aussi, c'est qu'à la fois, on a cette dimension proprement littéraire d'une subjectivité qui voit de l'intérieur ce que ça fait avec des hormones, avec des amours, d'être pris dans ces jeux de réseau, de réticulaire. Et en même temps, alors je ne sais pas exactement comment vous avez fait des enquêtes, mais il me semble que vous avez une conscience aussi claire que possible de, justement, lorsque j'envoie telle ou telle chose, quelles en sont les conséquences lointaines en termes de réseau. Toute votre histoire est mise en scène comme quelqu'un qui parle Mechanical Turk, qui se fait ce petit tâcheron qui doit gagner du fric et puis qui écrit la préface du roman parce qu'il gagne de l'argent, et puis donc c'est pas son roman, c'est pas un auteur. Donc là, il me semble que vous avez une conscience quand même très conceptuelle et très sociologique ou techno-sociologique du monde dans lequel on vit.
Oui. L'enquête, parce que Yves Citon, lui, il enquête beaucoup avec les abstractions. Vous, on croit le comprendre aussi, mais pas seulement. J'imagine qu'il y a, pour produire un roman comme ça, une enquête qui d'ailleurs peut-être ne s'est pas pensée comme telle au départ.
Si. Moi, en fait, pour moi, le roman est un moyen d'investigation. Donc, il me permet de comprendre des choses que je ne comprendrais pas si je n'étais pas en train d'essayer d'élaborer une intrigue, des péripéties, c'est-à-dire des rencontres, etc., et d'essayer surtout de faire surgir l'événement, ce qui est ma préoccupation politique personnelle dans l'espace du roman, et qui me semble être la grande difficulté qu'on rencontre quand on réfléchit à ces médias qui ont l'air de toujours décider pour nous, comme vous le dites avec le gouvernement GPS dans votre ouvrage, qui ont l'air de toujours décider pour nous, avant même que nous ayons commis une erreur, de la trajectoire dans laquelle nous allons être emportés. Et je voulais faire travailler ces catégories littéraires par rapport à ça. Mais pour faire ça, il a bien entendu fallu que je fasse une enquête. Alors moi, j'aime beaucoup lire des sciences humaines, etc. Ça fait partie de mes manières de réfléchir. Donc l'abstraction, ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup la transférer dans l'espace du roman. Mais là, j'ai aussi suivi des militants activistes donc pour les libertés numériques, donc Jérémy Zimmermann et Benjamin Zontag de la Quadrature du Net, qui m'ont extrêmement généreusement expliqué les choses, emmené avec eux dans le camp, le Chaos Computer Camp, et j'ai découvert toute une communauté, une manière de comprendre les médias, et surtout, vous le dites très bien quand vous parlez de l'éthique du hacker, une forme de générosité à partager la compréhension et à souhaiter qu'elle soit diffusée, qui finalement m'a complètement immergée, mais cette fois-ci dans une compréhension de ce dans quoi j'étais immergée sans le comprendre auparavant.
Là, on voit bien qu'il y a aussi, au-delà de l'idée de comprendre ce que nous font les médias, l'idée aussi de trouver des formes politiques nouvelles pour cette situation, Yves Citon.
Et que votre texte, moi je l'ai mal représenté en disant que c'est une histoire d'hormones et d'amour, c'est une histoire qui passe aussi par la place Taksim, qui passe par des gens, des corps, qui avec leurs hormones et leurs amours se trouvent occupés des rues et vouloir changer la politique.
Oui, absolument. Bah, j'ai pris un morceau de la déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, que j'ai cité en exergue de mon roman, dans lequel il dit « Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas là où se trouvent les corps. » Et il me semblait que ce n'était pas vrai, en fait, que paradoxalement, nous étions saisis très physiquement par tous ces médias qui sont finalement une fausse absence. Et je voulais travailler sur ça et voir comment, au lieu de considérer ça comme une forme d'emprise, comme vous le disiez tout à l'heure, on pouvait y voir les conditions de possibilité d'une forme de surprise. Et c'est ce que j'ai voulu faire en organisant l'intrigue vers l'insurrection de la place Taksim en 2013, qui, comme par un fait exprès, a lieu la même année, à très peu d'écart, que les révélations de Snowden, dont vous parlez amplement aussi dans votre roman. Et il me semble que ces deux surprises, qui fonctionnent sur des registres extrêmement différents, relèvent de la même volonté de subvertir ces médias et de justement faire aller le GPS là où lui-même ne peut même pas imaginer qu'il aurait été, en corrigeant les 72 erreurs déjà prévues. Et du coup, moi, c'est ça que je voulais créer, en effet.
C'est laisser la place à l'événement, Yves Citon. L'événement étant, en dépit de cette structuration, toujours possible.
Tout à fait. Et que c'est important d'essayer de comprendre les structures avec un certain nombre d'outils pour comprendre comment elles conditionnent l'événement, mais qu'on n'a rien dit tant que justement on ne vit pas l'événement de l'intérieur. Oui. Et c'est ce que vous nous aidez à penser.
Donc il faut pousser, Yves Citon, l'indiscipline jusqu'à accueillir au cœur de ce projet collectif de compréhension les formes artistiques. On parle là de littérature, mais après tout, ça aurait pu être de l'art contemporain, du cinéma.
Moi, le plus bel éloge que j'ai eu de mes petits essais, vous l'avez fait tout à l'heure en parlant de roman, dans votre roman. Alors, apparemment, c'est un lapsus, parce que j'ai pas vraiment écrit un roman, mais j'aimerais bien, je meurs d'envie d'écrire un roman. C'est une sorte de pis-aller de faire des trucs comme ça, parce que le roman, justement, dans la mesure où il est aussi bien développé, aussi bien informé que le vôtre, il nous donne un accès, il me semble, beaucoup plus puissant, finalement, que des jongleries conceptuelles sur ce qui nous bouge et ce qui nous bouge de l'intérieur. Et donc, un essai roman, ça serait un petit peu ça serait l'idéal, et peut-être qu'on le vôtre tend déjà vers l'essai, justement, avec toute une série de discours sur Mechanical Turk et autres. Et si moi je pouvais tendre vers le roman, et j'en serais très très heureux.
Et vous retrouveriez des choses qui vous ont occupé un temps autour du pouvoir des histoires, parce que vous avez aussi travaillé sur la puissance des intrigues il y a quelques années, Yves Citon, en essayant d'approcher la politique par ce versant littéraire qui est le vôtre. Merci à tous les deux. Merci Sandra Lucbert. Je rappelle le titre de votre roman La Toile. Il a paru au mois de février aux éditions Gallimard. On le trouve toujours, bien évidemment, en librairie. Et puis Yves Citon, Médiarchie, cet essai qui paraît ces jours-ci, le 7 septembre aux éditions du Seuil. On trouve toutes ces références bibliographiques sur la page de l'émission, La Suite dans les Idées, sur le site de France Culture, une page sur laquelle vous pourrez réécouter autant de fois qu'il vous plaira l'émission. Et puis sur laquelle vous pourrez, et je vous le conseille vivement, vous abonner au podcast ou vous réabonner au podcast, parce que après les vacances d'été, parfois les abonnements se déconnectent, donc pensez-y. C'était La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, chargé de réalisation Anne-Laure Chanel, à la technique aujourd'hui Eric Boisset. Et dans quelques instants, vous retrouvez sur France Culture Christine Bernard pour la première partie de l'histoire particulière de cette semaine.